sur de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Phrase typique de ces cœurs, qu'on si tu leur réponds non. Ce qu'ils veulent de toi, ils font. Ils te bloquent, te mettent les mêmes notes, puis t'emmènent pas. Sous le choc, tu ripostes, hey. C'est leur code qui te parle.
Stop,
il faut que cela stop.
Stop,
il faut que cela stop. Dans un pays qui se dit libre, pays des droits de l'homme, comment se fait-il que le délit de sale gueule fonctionne?
La réponse est qu'ils ont tous les droits. L'État les approuve, les couvre dans n'importe quel cas.
Ouais, c'est un pays de flics, même si tu prends le métro, tu risques de tomber sur les robocop du troll.
Alors profite, la
car s'ils attrapent dans leur locaux.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du Mag qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va poser cette question: comment dépasser la simple critique de la police pour pouvoir enfin en finir avec elle. Mais pas que, avec nous dans les studios, Nico du Secours Rouge Toulouse qui était déjà venu. Bonjour.
Salut.
Ça va?
Très bien, merci.
Et Gwenola Ricordo, chercheuse sociologue autrice, qui n'était pas encore venue.
Bonjour.
Vous êtes ici et maintenant pour échanger autour du livre de Gwenola, 13-12 raisons d'abolir la police, et que l'on pourra rencontrer le jeudi 5 janvier à 19h à la salle Sanxubra.
Tout à fait, métro Saint-Cyprien.
Métro Saint-Cyprien, merci d'autant plus d'être là puisque c'est tout à l'heure. Vous voulez peut-être vous présenter, désolé ouais, pour cette petite épreuve obligée.
Oui, bah moi en fait je fais partie du Secours Rouge Toulouse, qui est une organisation présente, le Secours Rouge est présent dans plusieurs pays d'Europe et se veut une organisation qui travaille sur la dialectique répression-anti-répression. Et dans ce sens-là, on est très content de recevoir Gwenola Ricordo et d'essayer de réfléchir à l'abolition de la police et plus généralement à l'abolitionnisme pénal dans ce contexte de répression et anti-répression.
Alors, quant à moi, je suis autrice de livres, puisque voilà, je viens présenter 1312 raisons d'abolir la police. Mais c'est vrai que je suis aussi l'autrice d'autres livres, un petit peu toujours autour de la critique du système pénal, de la prison. Donc, le précédent livre s'intitulait Crime et peine, celui d'avant Pour elle toute, femme contre la prison. Alors, je suis installée depuis maintenant 5 ans en Californie, aux États-Unis. Je suis enseignante à l'Université d'État de Californie, mais j'ai auparavant été maîtresse de conférences en sociologie à Lille. Et en bref, j'ai à la fois fait mon parcours universitaire et professionnel, mais aussi militant en France avant donc de déménager en Californie il y a quelques années.
Qu'est-ce qui a motivé en toi ce cheminement politique lié à la dépénalisation ?
Alors, c'est toujours une question assez vaste, hein, parce que il y a à la fois des expériences personnelles qui sont liées au fait d'avoir eu des proches incarcérés, d'avoir eu des proches victimes de la violence d'État. Donc, il y a cette expérience personnelle, il y a cette expérience personnelle mêlée aussi à un intérêt intellectuel, un intérêt académique, à s'inscrire dans un champ qui est celui de la critique et de la critique radicale du système pénal, et puis évidemment l'inscription dans un champ politique qui est, pour dire les choses rapidement, le champ révolutionnaire hein, des approches voilà, de remise en cause de l'État.
C'est ce qu'on décèle à travers tes champs de recherche. J'ai l'impression que ce livre, 13-12 raisons d'abolir la police, s'inscrit dans une triptyque avec la justice et la prison, puisque on parle d'abolitionnisme du système pénal, donc plus globalement peut-être des outils de contrôle, répression, du jugement et de la sanction.
Oui, alors c'est vrai que s'il faut faire une petite parenthèse et passer par quelques définitions, il faudrait rappeler que lorsqu'on parle du système pénal, on parle de la manière dont l'État définit des crimes, des délits. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle le code pénal, hein, la définition d'un certain nombre de faits qui... Voilà, sont caractérisés de crimes et de délits. Mais l'État aussi, à travers le droit pénal, définit des sanctions. Et donc, lorsqu'on parle d'abolitionnisme pénal, on parle d'abolir le système pénal et donc abolir les institutions hein, qui constituent le système pénal, c'est-à-dire la police, les tribunaux et la prison. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se dire que l'abolitionnisme pénal s'est longtemps focalisé sur l'institution carcérale, donc sur la prison, et que la police a longtemps fait figure d'angle mort, en fait, à la fois des réflexions et des luttes abolitionnistes. Alors, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est aussi pour peut-être mettre en lumière ce qui a longtemps été cet angle mort de l'abolitionnisme pénal que ce livre me semblait important d'être fait pour montrer qu'il existe à la fois des réflexions sur l'abolition de la police, hein, qu'il existe aussi des luttes, et donc de permettre d'ouvrir les réflexions, d'ouvrir aussi le champ des luttes à cette question plus spécifique de l'abolition de la police, au-delà du projet plus général qu'est l'abolition du système pénal dans une perspective révolutionnaire.
Ouais, carrément, c'est un privilège de pouvoir ne pas voir cet angle mort, en fait. Ne pas voir la police, c'est un véritable privilège. Et c'est vrai qu'il y a ce constat, en fait, que ces administrations dont on est en train de parler créent du mécontentement. Donc il faut réfléchir à des alternatives, les penser autrement. Voilà, il y a des chercheurs, des chercheuses, des sociologues qui sont à l'étude de ces nouveaux imaginaires, notamment Mathieu Rigouste, dont on va sûrement parler dans cette émission, qui était présent hier. On lui a posé la question justement sur l'abolition de la police. Écoute sa réponse et tu vas pouvoir rebondir, puisqu'il donne aussi des pistes de réflexion qui complètent les tiennes.
Question d'Internet, l'invité pense-t-il qu'une société pourrait fonctionner sans forme de police, pour interrogation, ou critique-t-il la modalité de celle-ci ?
Les deux. Je critique les modalités de celle-ci. Enfin, chaque société a la police qu'elle mérite. Donc on a des polices racistes, sexistes, féroces, parce qu'on est dans une société capitaliste, raciste, sexiste, néocoloniale, etc. Et du coup, je pense que quand on aura réussi à créer des sociétés débarrassées des rapports de domination, on inventera d'autres choses, mais que ça ne servira à rien d'appeler police, parce que ce sera plus que là on appelle la police aujourd'hui. Et alors, je veux dire, et pourtant, au Chiapas zapatiste, s'expérimente, je donne cet exemple-là, parce qu'eux, ils utilisent le terme de police communautaire, qui du coup pourrait un peu être gênant du point de vue de l'analyse que je défends, mais c'est effectivement, de point de vue de cette analyse-là, c'est pas de la police qu'ils produisent. Ils produisent donc, on a des villages, des communautés auto-organisées, qui décident ensemble des manières dont elles veulent vivre, et bien entendu, elles se font attaquer par le narco-État paramilitaire, qui leur envoie des assassins, des dealers, des violeurs, etc. Et donc, il faut bien se défendre. Et puis que, bien sûr, chaque société a toujours ses formes de ces problèmes à l'intérieur, des injustices, des gens qui vont se taper dessus, qu'il faut et qu'il faut régler. Bon, bah, là-bas, on travaille plutôt sur la question de la justice réparatrice. On essaye de voir, entre tous les gens qui ont été concernés par une injustice ou par une exaction, pour voir comment on peut réparer ça. Et puis, on met en place des groupes. Ça dépend des communautés, hein, mais on met en place des groupes qui vont être chargés de participer à résoudre les conflits et à trouver des formes justes socialement. Alors ces groupes, des fois, ils arrivent et ils commencent par expliquer ce qui s'est dit à la dernière assemblée populaire pour faire savoir ce qui s'y est dit, à trouver des solutions ensemble, etc. Ils appellent ça de la police communautaire. Moi, du point de vue de l'analyse que je défends, ce serait justement pas de la police, c'est déjà autre chose. Et du coup, je crois que des sociétés libres et autonomes et émancipées qu'on organisera vont se doter de formes qui permettent de lutter contre des violences internes, contre des conflits, des injustices, d'un point de vue réparateur, pas d'un point de vue punitif, disciplinaire, etc. Et ça, c'est mercantile. Encore effectivement des choses à inventer.
Bon, on va surtout s'attarder au début de la réponse, en fait, sur le cadre, ce pourquoi la police est faite, à savoir sortir de la mythologie, de l'imaginaire, du récit d'État construit autour de la police comme un outil de protection de la population qui permet, entre autres, de légitimer son fonctionnement.
Oui, alors peut-être la première réaction que je pourrais avoir, c'est à partir de ce que dit Mathieu Rigou, c'est évidemment l'accord que j'ai avec son constat, qu'un constat fait notamment par les anthropologues et le champ de l'anthropologie qui nous dit que effectivement des sociétés humaines ne peuvent pas exister sans malheureusement des formes de préjudice, des formes de tort. Hein, Durkheim nous dit que le crime est un phénomène social et donc la vie en société malheureusement s'accompagne de formes de préjudice et de tort. On peut évidemment espérer que des formes d'organisation sociale plus égalitaire permettent de réduire la survenue de ces préjudices. Il y a évidemment quand même de bonnes raisons que de penser que une société notamment plus juste d'un point de vue économique produirait moins de préjudices, que sortir du capitalisme racial permettrait aussi de réduire les formes de préjudices. Bref, il y a cette idée qu'il est difficile d'imaginer des sociétés humaines sans dépourvues de toute forme de préjudice, de tort. Et puis, il y a aussi sans doute l'impossibilité de penser une société sans forme de contrôle social. Alors, le contrôle social pouvant prendre des formes extrêmement variées. Mais ça pose toujours la question quand même du recours à des formes de coercition. Il semble qu'il est plutôt difficile de trouver des exemples de sociétés dans lesquelles il n'y aurait aucune forme de coercition. Mais ce constat nous invite néanmoins à penser des formes de coercition qui soient au moins réduites au minimum, qui soient entourées de précautions bien plus importantes que ça l'est aujourd'hui. Une fois que l'on a dit ça, je pense que Mathieu Rigous a raison de mobiliser l'exemple du CAPIA, Chiapas. Pardon. Mais alors évidemment, c'est pas l'unique expérience ou situation que l'on peut mobiliser. L'histoire des sociétés humaines est une histoire extrêmement riche. Alors c'est à la fois des formes d'organisation sociale qui ne connaissent pas la police telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre société capitaliste, patriarcale, fondée sur le suprématisme blanc. Il faut aussi penser des expériences politiques. Mais c'est vrai que ça, c'était pas l'objet du livre que je propose, mais elles sont importantes à mobiliser aussi pour nourrir notre imagination et saper la question que l'on entend le plus souvent, en tout cas l'objection qui est souvent faite aux abolitionnistes, que une société sans police serait impossible. En fait, c'est bien davantage l'impossibilité de penser une police qui se réformerait, qui s'améliorerait, qui est impossible à penser, hein, et que du coup, cette idée que ce serait utopique d'être abolitionniste, c'est une attaque qui doit être retournée à ceux qui croient en la police, aux apologistes de la police, pour leur dire que, en fait, les marchands de rêve, ceux qui nous vendent la police, ce sont eux qui sont du côté de l'utopie, hein, de cette idée qu'on pourrait avoir une meilleure police, voire une police qui serait du côté des luttes progressistes, qui pourrait être notre allié.
C'est vraiment une question de construction aussi. Tu amènes cette idée que c'est aussi la peur, une peur construite, qui fait qu'on redoute la fin de la police telle qu'on la connaît actuellement. Et que c'est aussi une construction d'avoir peur de l'autre, en fait.
Alors, moi, j'entends bien hein, cette peur qui est exprimée par, voilà, par les apologistes de la police, les légitimistes, comme je les appelle, de la police. J'entends cette, en tout cas ce qu'ils expriment. En même temps, je pense qu'il faut surtout écouter l'étendue des méfaits qui sont liés à l'existence de la police, hein, qui sont évidemment pas réductibles aux crimes d'État, aux violences policières, hein, même si, évidemment, c'est une part importante des méfaits liés à l'existence de la police. Hein. Mais il faut, je pense, mettre l'accent sur la façon dont l'existence même de la police façonne les conditions d'existence dans nos sociétés, et que à cette charge sur que se passerait-il s'il n'y avait pas de police, hein, qui est souvent liée à cette idée que ça entraînerait de l'insécurité, indiquer que c'est aujourd'hui qu'on vit le chaos, en fait. Hein. C'est pas, le chaos ne sera pas le résultat de l'abolition de la police. C'est aujourd'hui qu'on vit le chaos, qu'on vit la destruction même de des vies sous le régime dans lequel on vit, et je dis pas simplement le régime politique, je dis le régime économique et celui du capitalisme, qui est le chaos, qui est la destruction, qui porte la mort avec lui.
Ouais, tout à fait. Tu dis que la police ne combat en rien l'insécurité systémique, puisqu'elle en est le rouage essentiel, et que leur fonction en soi repose sur cette ambiguïté, cette hypocrisie. Leur légitimité est censée être populaire, alors même qu'ils servent le pouvoir.
Oui, on oppose souvent cette question hein, de sécurité, d'insécurité, puis la police qui serait censée nous protéger. Hein, c'est à mon sens vraiment important de rompre avec cette ce discours et cette justification de la police. Et finalement, quand on y pense un peu, on sait tous et toutes, sans même avoir fait des études de sociologie ou lu de la sociologie, que le phénomène du crime, le phénomène de la délinquance, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui le crime et la délinquance, c'est fondamentalement, essentiellement lié à des facteurs économiques, à la qualité de la vie en société, à la qualité du lien social, et que finalement l'activité policière, c'est une activité qui ne va pas faire régresser hein, le niveau de ce qu'ils appellent la délinquance, l'insécurité. Hein, même de façon assez paradoxale, on sait que le fait qu'il y ait plus de policiers risque d'augmenter en fait le nombre de ce que eux appellent la délinquance ou la criminalité. Hein. Je donne un exemple voilà, très, très connu, hein, mais plus on a de policiers à qui on dit de cibler leur activité sur les produits stupéfiants, bah, on va avoir automatiquement des statistiques autour de ces délits et des crimes qui vont augmenter. Et donc, tout ce discours qui présente l'insécurité et la police comme des vases communicants, c'est un immense leurre, et ça nous détourne en fait de ce qu'est la vraie insécurité dans la société dans laquelle on vit, qui est l'insécurité économique et d'autres formes d'insécurité.
Oui, là tu fais aussi allusion peut-être à la politique du chiffre en fait, que tu peux totalement manipuler, qui est utilisée aussi comme une stratégie de communication par les politiques.
Oui, et qui renforce cette croyance que la police protégerait la société, mais aussi protégerait les plus faibles, les populations les plus marginalisées. Et c'est vrai qu'en tant qu'abolitionniste, c'est sans doute la croyance à laquelle il est le plus urgent de s'attaquer, hein, puisque on voit que ce discours est repris par certains courants à gauche, enfin même, je dirais, par l'essentiel de la gauche réformiste aujourd'hui en France, qui s'éloigne hein, d'une vision critique de la fonction de la police dans notre société et qui, au contraire, a tendance à promouvoir une police qui serait au service des plus pauvres, qui serait là pour nous protéger. Alors c'est quelque chose qu'on voit, y compris dans des courants, je dirais, dominants du féminisme, hein, qui voit essentiellement la police comme un allié possible hein, de l'avancée de la cause des femmes, hein, en faisant appel à sa fonction de prise en compte des plaintes, de sa fonction d'enquête, etc.
Ouais, ouais, t'es pas pour la transformation de la police, en fait. C'est pas ta pensée radicale est pour l'abolition de la police.
Oui, alors, moi et avec d'autres, quand on pose la réflexion abolitionniste et la perspective abolitionniste, c'est nettement pour appeler à l'abolition et donc à la rupture avec le réformisme. Et comme je le dis souvent, il n'y a pas entre le réformisme et l'abolitionnisme une différence de degré. Hein, l'abolitionnisme, ce n'est pas être réformiste jusqu'à obtenir l'abolition de la police ou du système pénal. C'est dire qu'il y a dans nos analyses et de fait dans nos propositions stratégiques une différence de nature. Et pour dire les choses rapidement, là où il y a divergence en termes d'analyse, c'est que pour dire les choses rapidement, le réformisme dit que il y a dans la police des formes de dysfonctionnement. Hein, il y a des dysfonctionnements auxquels il importe d'apporter des réponses. Là où les abolitionnistes et les réflexions abolitionnistes disent la police fonctionne, ce pourquoi elle a été créée, et d'une certaine manière, on peut dire qu'elle fonctionne bien, hein, et que du coup, il n'y a rien à réformer, il n'y a rien à réparer. La police est non seulement non réformable, puisqu'on ne peut pas changer la fonction qui est la sienne dans notre société, mais la police est le problème, c'est pas la police a des problèmes.
Ouais, c'est vrai que toi, toi en tout cas, la pensée qui t'anime, c'est que tu souhaites toujours décorréler le policier de l'institution. Tu donnes cet exemple, on sait que cela fait partie de la ligne de défense de la police, évoquer les brebis galeuses et donc des erreurs humaines. Cela permet de détourner la discussion du vrai sujet, la fonction de la police. Plutôt que de dire que la police fonctionne mal, il faut au contraire dire qu'elle fonctionne très bien au regard de ce qui est attendu d'elle, à savoir protéger l'État, le système capitaliste, le racisme structurel et le patriarcat.
Oui, alors en France, on a cette expression de brebis galeuses, là où en Amérique du Nord et en anglais, on parle de pommes pourries. Et du coup, les abolitionnistes québécois et francophones d'Amérique du Nord ont cette expression que j'aime bien. Ils disent il ne s'agit pas de pommes pourries, c'est tout le verger qui est pourri. Et c'est vrai que cette rupture dans le discours, hein, de il y aurait des policiers qui poseraient problème, hein, et de dire c'est pas des policiers qui posent problème, mais c'est l'institution policière qui est le problème, c'est une rupture importante qu'il y a entre réformisme et abolitionnisme.
Ouais, évidemment, là, tout à l'heure, il y a le rassemblement de soutien à Mathieu Rigouste pour son jugement, quand il explique, en fait, ce qui lui est arrivé quand la fameuse brebis galeuse lui cogne la tête dans le mur du commissariat. Mais il y a 40 flics autour qui ne disent rien, qui ne parlent pas. Donc, de toute façon, ce n'est pas un problème d'individu, c'est vraiment un problème, comme tu dis, c'est l'institution en soi qui est critiquable et condamnable.
Oui, et je trouve intéressant, pour un petit peu illustrer cette idée-là, de revenir sur le procès de Derek Chauvin, donc le policier qui était directement impliqué dans l'assassinat de George Floyd. Vous vous souvenez peut-être qu'il a été condamné à une longue peine de prison. Et je peux entendre hein, que, vu de France, et donc avec la distance, ça a pu être considéré comme une avancée qui serait une avancée plutôt du côté de la critique de la police. Mais il faut avoir quand même à l'esprit que non seulement le plus grand syndicat de policiers a témoigné lors du procès de Derek Chauvin contre lui, mais qu'il s'est aussi réjoui de la condamnation de Derek Chauvin. Et ça peut paraître surprenant, mais beaucoup moins si on considère que, du point de vue de l'institution policière, du point de vue d'un syndicat de policiers, il y a évidemment tout à gagner à la condamnation d'un Derek Chauvin plutôt que la remise en cause de l'institution policière. Hein. Et du coup, pour un syndicat de policiers, pour l'institution policière, ce procès, c'était aussi l'occasion de dire que, que la police est une institution qui a des brebis galeuses, qui a des pommes pourries, encore une fois, comme disent les États-Uniens, et que du coup, cette condamnation vient renforcer le mythe d'une police qu'on pourrait réformer, d'une police qu'on pourrait améliorer, par exemple en recrutant de meilleurs policiers, entre guillemets, en les formant mieux. Et du coup, le procès, même si la condamnation a un caractère exceptionnel, hein, il faut quand même le rappeler, hein, c'est très exceptionnel aux États-Unis, mais comme en France, qu'on ait des policiers qui soient condamnés suite à des homicides policiers, à des violences policières. Mais toujours est-il que ce procès et cette condamnation s'inscrit dans la rhétorique réformiste, hein, d'une police qui aurait des dysfonctionnements, qui aurait des individus qui dysfonctionneraient. Et ce discours-là permet de laisser intact, finalement, la question de la légitimité de l'institution elle-même.
Ouais, c'est vrai que le verger, parfois, a tendance à être OK pour sacrifier une pomme.
Exactement.
C'est on fait une petite pause musicale et puis voilà, c'est la rumeur qui parle de la meilleure des polices.
L'uniforme double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu bectes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement, sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ce que tu veux, de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Tout ce que tu bec de pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bec de pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bec de pour garder le goût, de moisir à crédit.
de retour sur le mic 92.2 MHz sur Canal Sud, toujours avec Nico de Secours Rouge Toulouse et Gwenola Ricordo qui est venue nous parler de son livre 13-12 raisons d'abolir la police. Oui, je souhaitais aborder cette question de violence, commencer déjà par cette notion de violence légitime, qui est, je cite, le monopole dont dispose l'État pour contraindre légalement les individus à obéir en utilisant la force si nécessaire. Donc voilà, pour un corps qui est censé protéger, ce corps dispose de violences dites légitimes.
Oui, alors il y a effectivement beaucoup de choses à dire autour de la violence de la police, des violences policières. Après, d'un point de vue abolitionniste, c'est vrai, et c'est dit de différentes manières dans certaines contributions qui sont réunies dans le livre, mais on ne réduit pas d'une façon générale, je dirais, enfin, dans ce qu'on peut appeler l'abolitionnisme, la question de la violence policière à ces manifestations les plus brutales que sont les homicides policiers, et donc ce qu'on appelle plus généralement les violences policières. Pourquoi on ne réduit pas la violence de la police à ces formes extrêmes de violence? Parce que on analyse la police comme l'instrument du système capitaliste, du capitalisme racial, mais aussi la façon dont la police est liée à l'extractivisme et donc à la destruction de l'environnement, comment la police est aussi liée au système patriarcal, et que du coup, les formes de violence auxquelles la police est associée sont vont bien au-delà des seules violences qui sont généralement associées à la police. Je ne sais pas si c'était très clair, mais pour dire peut-être les choses un petit peu autrement, ce qu'on désigne ordinairement par violence policière, c'est pour les abolitionnistes pas l'unique scandale, l'unique raison pour laquelle on veut abolir la police, mais si on pense dans une perspective d'abolition ou de destruction du système capitaliste, évidemment qu'il s'agit de s'attaquer à la police, non pas simplement pour ce qui serait des débordements ou ce que la police va appeler en ces termes plutôt des bavures ou des dysfonctionnements. Ce qui me paraît aussi important à dire, c'est que aujourd'hui, en France, on a pu entendre que c'était nouveau de voir une police aussi violente. On a pu entendre que la police se militarisait. Alors tout ça mérite des débats, des analyses, mais en tout cas, un certain nombre de contributions qu'on a réunies dans le livre tendent plutôt à faire un pas de côté sur ce genre, par rapport à ce genre de discours, pour dire mais que en fait, déjà, police et armée ont toujours travaillé de concert, et que du coup, d'opposer ce qui aurait été une bonne police à des formes de militarisation de la police, ça reste quand même assez artificiel, et que la police, au cours de l'histoire, a été dans ses activités plus ou moins intenses, plus ou moins répressives, mais que lorsqu'on regarde sa fonction, elle reste inchangée.
Oui, voilà. De nouveau, il faut arriver à se détourner, je dirais, de la problématique de l'individu pour aller vers la fonction de la police qui est, comme toujours, de toute façon, la protection, la défense du système.
Oui, et que de toute façon, ça va évidemment, d'un point de vue abolitionniste, au-delà de simplement la dissolution de telle ou telle force de police. Alors, ce genre de revendication peut avoir un intérêt tactique, ça c'est tout à fait entendable, mais évidemment que l'objectif, c'est pas simplement de dissoudre tel ou tel corps de métier ou telle force de police, mais c'est bien de s'attaquer aux fonctions qu'occupe la police.
D'ailleurs, dans les stratégies, alors c'est peut-être plus lié aux États-Unis, progressivement, il y a cette idée qui passerait en trois temps, je ne sais pas si tu souhaites en parler, avec le disempowerment, le disarm et disband.
Ouais.
Affaiblir, désarmer, dissoudre, c'est ça ?
Alors ça, c'est une des stratégies abolitionnistes. C'est la stratégie dont on entend le plus parler. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger sur cette stratégie. Donc c'est l'idée qu'il faut d'abord affaiblir l'institution, donc l'affaiblir, disempower, qu'il faut ensuite la désarmer et ensuite la démanteler. Et peut-être que certaines personnes se souviennent avoir entendu, notamment en 2020 et dans le contexte états-unien, cette revendication du définancement de la police, donc de defund, qui s'inscrit dans ce premier temps qui est le temps de l'affaiblissement de la police. Hein, donc de la demande de définancement de la police a pour objectif d'affaiblir la police. Donc ça, cette stratégie, qui est une stratégie abolitionniste classique qu'on retrouve dans les luttes abolitionnistes contre la prison, qu'on retrouve en fait formulée dès les années 70, de cette idée de réforme non réformiste ou réforme abolitionniste. Alors, en fait, c'est formulé notamment par Thomas Mathiesen, alors plus spécifiquement sur la question de la prison. Mais en fait, on voit qu'elle est réutilisé par les mouvements autour de l'abolition de la police, avec donc cette idée d'une guerre d'usure contre la police, de mouvements abolitionnistes qui s'emparent de revendications en distinguant des revendications qui pourraient être des revendications allant dans le sens de l'abolitionnisme. Et l'intérêt de cette perspective, alors même si on peut la discuter, notamment parce que dans quelle mesure ce type de stratégie peut être récupéré par, en gros, le réformisme et la gauche, d'une certaine manière. Mais l'intérêt, quand même, de cette perspective, c'est de mettre en accusation des propositions que l'on entend quand même de façon assez classique formulées autour de la police, et donc de ce que j'appelle des fausses bonnes idées, comme par exemple la mise en place de caméras embarquées ou le fait de... Alors, peut-être pour expliciter, si la proposition de généraliser les caméras embarquées est critiquée, c'est parce que, par exemple, ça participe de l'augmentation des budgets de la police, que cela ne nous garantit évidemment pas d'avoir une réduction des violences policières. On a même des travaux qui nous disent que ça aurait peut-être tendance à augmenter les interactions violentes, en fait, entre certaines populations et la police, parce que certaines populations qui sont harcelées par la police, et je pense dans le contexte états-unien, en tout cas c'est les travaux que l'on connaît dans le contexte états-unien, on voit que, par exemple, des populations extrêmement marginalisées, des personnes qui sont sans domicile fixe, usagers, usagères de produits stupéfiants, qui vont interagir avec des policiers et être filmées, ça a plutôt tendance à augmenter le recours à la violence lorsqu'il y a des interventions policières. Donc voilà, exemple de fausse bonne idée, parce qu'on n'a à la fois aucune preuve que cela diminue le recours à la violence des policiers. On sait que ça va augmenter les budgets de la police. Et puis on sait aussi qu'il y a des formes d'apprentissage par les policiers de la manière d'utiliser ces caméras, des façons dans la gestuelle qui leur permettent de choisir des angles, etc. Et puis là, on passe à un niveau d'analyse peut-être plus en termes de généralité, ça crée une nouvelle norme en termes de dénonciation de ce qu'est la violence policière, et que du coup, on arrive à un nouveau standard qui est qu'il faut des images pour qu'on pense la violence policière. Et donc ça a tendance à mettre dans l'ombre d'autres formes de violence, des formes de violence pour lesquelles il n'y a pas d'image possible. Et le fait qu'on accepte de façon assez générale de la nécessité de la preuve de l'image et d'une image qui soit fournie par la police elle-même, ça peut être aussi un moyen de saper certaines luttes. Et donc, alors là, précision quand même importante, quand on dénonce les caméras embarquées comme de fausses bonnes idées, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas filmer la police. Hein, c'est de dire qu'au contraire, s'il faut qu'il y ait des images, il faut que ce soit des images qui soient celles des militants, des militantes, des passants, des passantes, hein, mais ne pas laisser... se laisser berner par une illusion, en fait, que la production d'images permettrait voilà, une forme de rapport plus serein avec la police.
Oui, et puis c'est vrai que ça, cette obsession aussi de l'ultra-surveillance fait qu'on on se flique nous-mêmes avec les voisins vigilants, par exemple. Il y a cette idée que finalement, voilà, la meilleure des polices, est-ce que c'est pas nous ? C'est pas nous qui n'arrivons pas, en fait, à s'autoriser à penser autrement, à réfléchir, en l'occurrence, de la disparition de la police.
Alors ça, c'est une idée qui me tient à cœur et sur laquelle je reviens dans la conclusion en disant qu'il est important à la fois de défliquer les luttes progressistes et donc de travailler à sortir en fait d'une rhétorique dans laquelle la police pourrait être alliée des luttes progressistes. Mais je reprends aussi cette formule hein, de tuer le flic en soi. Alors il ne s'agit pas d'un appel à simplement une forme de développement personnel et simplement de meilleures attitudes ou de meilleures valeurs à titre individuel, mais bien penser l'émancipation de manière collective en se disant qu'il faut évidemment être vigilant à ne pas substituer à la police, soit des formes de surveillance, et notamment de surveillance via tout un tas de technologies qu'on voit être en expansion, mais aussi des formes de contrôle, de surveillance au niveau inter-individuel, et c'est sans doute là un enjeu extrêmement complexe, alors auquel j'ai pas de réponse en l'état actuel, mais c'est à mon sens quelque chose qui est important pour réfléchir l'abolitionnisme, réfléchir nos perspectives, parce que évidemment lorsqu'on se place dans une perspective radicale d'appel à l'abolition de la police, il ne s'agit pas de remplacer, il ne s'agit pas de créer des alternatives, une autre police, une police qui serait plus acceptable, qui serait peut-être même moins douloureuse d'une certaine façon, mais bien de penser l'organisation de la société.
Simplement, tu as donné un exemple en fait de possibilité, peut-être aussi lié à la communauté, qui était l'exemple des Black Panthers Party, qui avait une forme d'organisation certes communautaire, mais qui arrivait à amener une forme de protection et qui arrivait à se passer de la police. Tu peux juste rapidement nous parler de cet exemple et après on conclura par un passage lu de ton livre et Nico reprendra la parole pour parler de la soirée de ce soir.
Bon, alors, j'ai pas une expertise sur les Black Panthers, mais par contre, ce que je sais d'un point de vue militant, d'un point de vue abolitionniste, c'est que on doit beaucoup aux Black Panthers, on doit beaucoup à la pensée radicale noire états-unienne lorsqu'il s'agit des luttes abolitionnistes et des réflexions abolitionnistes. Hein. Ils ont à la fois donné des éléments théoriques, des éléments de réflexion, notamment en disant clairement la façon d'analyser la police comme une force d'occupation des ghettos noirs. Ça, c'est les expressions hein, qui sont utilisées par les Black Panthers. Et d'ailleurs, intérêt hein, de cette formulation, c'est aussi d'annuler une supposée différence entre la police et l'armée, hein, et là, clairement dans une perspective anti-impérialiste, hein, de dire bah, en fait, que ce soit la police dans le ghetto noir ou l'armée américaine au Vietnam ou ailleurs, bah, finalement, hein, c'est le même ennemi. Donc voilà, réflexion sur le rôle de la police, le rôle de la police dans le racisme, dans le suprématisme blanc, et puis aussi des outils de lutte. En termes stratégiques, on a vu les Black Panthers, par exemple, créer ce slogan de policer la police, hein, police the police, qui en l'état de leur force et dans la situation qui était la leur aux États-Unis, c'était d'aller surveiller les activités policières en étant armés. Alors avec aussi ce que ça signifiait à l'époque, hein, d'avoir des hommes et des femmes armés qui surveillaient la police dans les quartiers noirs. Alors c'est bon, aussi l'occasion de dire que ce slogan de policer la police a perdu de sa charge radicale, puisque aujourd'hui malheureusement ce slogan est repris pour dire il faudrait créer des comités de surveillance de la police, hein, des formes de d'IGPN ou de contrôle citoyen de la police, alors que quand les Black Panthers disaient police the police, hein, il y avait vraiment cette idée d'une confrontation sur le terrain et de personnes en armes surveillant la police. Donc il y avait ça chez les Black Panthers en termes d'analyse, en termes de propositions stratégiques. Et puis, il y avait aussi toutes les organisations communautaires avec cette idée que des communautés plus fortes, des communautés pour lesquelles un certain nombre de besoins seraient... auxquels on répondrait à leurs besoins, permettraient de moins recourir à la police. Et cette pensée-là a évidemment nourri notamment ce qu'on peut réfléchir en termes de justice communautaire, justice transformatrice. Et là, donc, je renvoie aussi à ce que disait Mathieu Rigouste au début de notre entretien.
Aller soutenir...
Mathieu Rigouste.
Ouais. Justement.
Puisqu'on a parlé de lui. Gwenola, tu souhaitais lire un passage de ton livre
Oui, alors c'est la toute conclusion. Bon, voilà, c'est... Peut-être pour donner une petite idée de la tonalité et des mots par lesquels l'ouvrage se conclut. Par souci de clarté, j'ai précédemment présenté les stratégies abolitionnistes, la destruction, l'abandon et le démontage, séparément. Cependant, chacune me semble nécessaire mais non suffisante pour réaliser l'abolition. À l'instar de ces cinq ingrédients. Premièrement, la solidarité, qui est due à toutes les victimes de la police, quel que soit le type de victimation subie, qu'elle puisse ou non prouver cette victimation selon les standards de la justice pénale et sans considération portant sur leur personne ou sur les faits qui leur sont reprochés. Deuxièmement, la réparation, qui doit participer de nos pratiques politiques en permettant de penser collectivement la guérison et le deuil, et plus généralement, les réparations dues aux personnes et aux communautés les plus touchées par l'existence de la police. Troisièmement, l'autodéfense collective, qui est nécessaire à des fins de protection et de survie, et qui peut s'exercer diversement, depuis le cop-watching, l'autodéfense juridique et le développement de culture de la sécurité, jusqu'à ce que Scott Crow désigne par l'expression « autodéfense armée, communautaire et émancipatrice ». Quatrièmement, l'imagination, dont on a besoin pour concevoir des manières de faire et de vivre sans police, et pour expérimenter et tenter de préfigurer le monde auquel on aspire. Cinquièmement, l'offensivité, parce qu'on ne vainc pas un ennemi sans le combattre, et que si on ne combat pas, on est déjà vaincu. En août 2021, un an après avoir été grièvement blessé par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, Jacob Blake déclarait « Je n'aurais pas survécu » tant que quelque chose n'aura pas changé. Puissent ces mots hanter chacun de nous, nous qui ne sommes forts que de nos aspirations, nous qui résistons à ce que la police fait de nos existences, nous qui avons le cœur lourd de tous ces destins brisés et de ces vies perdues, mais qui ne voulons laisser nos cœurs ni s'endurcir ni se dessécher. Nous qui devons rêver fort et rêver ensemble pour que dans nos rêves puissent se forger les plus féroces combats pour la liberté. Parce que personne n'est mort pour rien et que chaque mort nous oblige. Parce que nous ne voulons pas d'une vie à l'ombre de la police, parce que vivre libre, c'est vivre sans police. Nous avons 1312 raisons d'abolir la police.
Merci Gwenola. Juste pour terminer, je voudrais revenir sur cette nécessité pour nous, Secours Rouge Toulouse, de travailler contre la répression d'une manière tactique, bien sûr, et on le fait au quotidien. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a édité un cadre du manifestant et de la manifestante, qu'on a fait la promotion. Et j'étais à cette même radio il n'y a pas longtemps pour faire la promotion du film « Rien à déclarer » pour expliquer au plus grand nombre qu'on a tout à gagner à se taire pendant un interrogatoire de la police. Mais pour nous, c'est une nécessité de penser de manière plus stratégique la répression, c'est-à-dire qu'il n'y a pour nous pas d'autre alternative dans une perspective révolutionnaire que penser l'abolition de la police. C'est pour ça qu'on remercie encore une fois Guanola pour sa venue à Toulouse et pour la tenue de cette soirée où elle nous présentera son dernier livre, mais aussi elle aura l'occasion de nous présenter les auteurs qu'elle met en lumière dans ce livre, qui est un livre collectif écrit à plusieurs auteurs.
Oui, des traductions, c'est ça, hein,
oui.
Pour la première fois en français.
Exactement.
Tout à fait, ouais. Et pour finir, je tiens à préciser que cette soirée sera l'occasion aussi pour nous de faire un point de rencontres sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, vu que voilà, on a invité nombreuses organisations, collectifs, journaux, maisons d'édition à venir tenir une table. Donc ça sera l'occasion de nous rencontrer. Et
donc c'est ce soir à ouais, 19h
à 19h à la salle Sainte-Subra, du coup métro Saint-Cyprien. Voilà, c'est une soirée organisée par le Secours Rouge Toulouse avec l'appui d'Enquête Critique. Okay. Et avec voilà, pour n'oublier personne et essayer de les citer toutes, avec des tables de l'UCL, Révolution permanente, la Ligue de la jeunesse révolutionnaire, la Bibliothèque Anarca féministe, la Génération Joule, Toulouse Anticra. Et j'espère n'avoir le journal l'envolé.
Très bon choix, hein, vraiment.
Voilà.
On va être en bonne compagnie pour discuter d'abolition de la police.
Tout à fait.
Pour le livre de Guanola Ricordo, 13-12 raisons d'abolir la police, l'éditeur ou l'éditrice?
C'est chez Lux et c'est demain en librairie.
D'accord, donc on peut le trouver...
Et ce soir, en exclusivité à Toulouse.
Très bien, pour les dédicaces. Et voilà, je mettrai tous les liens de toute façon sur le site qui renverront aux différents travaux. Une nouvelle fois, merci d'être venu.
Merci à toi dans
ce petit marathon qui vous attend. Un dernier mot à rajouter, en guise de conclusion?
Encore merci. Et puis c'est vrai que nous, on va aller maintenant au rassemblement pour Mathieu Rigouste. Et voilà, pour... Enfin, manifestation, rassemblement, pardon, ouais, contre les violences d'État. Et donc, en soutien à
Mathieu Rigouste.
À Mathieu.
Ouais. Merci encore.
Avec plaisir. À bientôt et crève la tôle. Au revoir.
Salut.
Toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Face typique de ces cœurs, qu'on si tu l'aurais pour le nom.